RFI.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, quand il fait 0 degré dehors, faut-il chauffer la maison ou sauter un repas? Cette question peut vous sembler surprenante, mais elle est pourtant dans la tête de nombreux habitants des pays dits riches. En France, 6e puissance économique mondiale, une famille française sur 10 n'arrive pas à payer ses factures d'énergie. Les raisons sont multiples, nous allons en parler, et les conséquences sanitaires et sociales de ce phénomène qui s'appelle la précarité énergétique sont énormes.
En France, plus d'un million d'enfants, de femmes et d'hommes souffrent gravement du froid l'hiver et souvent du chaud l'été. Ils ont un toit, mais ils sont mal logés. Une précarité que l'on ne voit pas, derrière ces portes fermées, ces façades anonymes. Les appartements, les maisons sont de vraies passoires énergétiques. J'ai honte de vivre comme ça. J'ai honte de faire vivre ça à mes enfants, disent-ils. Plus inquiétant encore, c'est aussi la santé de ses habitants qui est touchée. Allergies chez les enfants, maladies à répétition aussi pour les plus grands et impossibilité pour les plus âgés de vieillir sereinement.
Ce que vous venez d'entendre est un extrait du clip tourné par l'actrice française Emmanuelle Béart pour sensibiliser un maximum de monde au problème de la précarité énergétique et inciter aux dons pour venir en aide aux familles qui en souffrent. Bonjour Gilles Béraud.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur du collectif Stop à l'exclusion énergétique qui réunit une soixantaine d'organisations impliquées dans la solidarité, l'écologie, la gestion des territoires et la recherche. Alors expliquez-nous ce phénomène de l'exclusion énergétique. On parle aussi de précarité énergétique.
Alors le phénomène est ancien puisque effectivement, comme vous le disiez, il est massif. Aujourd'hui, on a encore 12 millions de personnes en France qui, tous les hivers, ont froid et parfois même chaud l'été. Et on voit bien dans les périodes de canicule combien ces questions sanitaires peuvent être importantes. On est face à cette difficulté-là. Parmi ces 12 millions de personnes, il y en a plus de 3 millions qui sont en grande difficulté, c'est-à-dire qui se chauffent peu. Quand elles se chauffent, elles payent trop cher. Elles payent plus cher que les autres parce que c'est normal quand vous avez une mauvaise chaudière, vous êtes mal isolé. Et parmi celles-là, certains ne se chauffent pas du tout, avec des conséquences sur la santé extrêmement importantes. Il ne faut pas oublier quand on parle de froid, mais quand on parle de froid, on parle aussi généralement d'humidité, on parle de champignons, on parle de problèmes à tous les niveaux. C'est au-delà de l'inconfort. On parle de maisons où il peut faire le matin 6, 7, 8 degrés, de niveau d'humidité. Enfin, on est face à une situation vraiment extrêmement lourde. Et nous, ce qui nous intéresse dans le collectif, c'est d'agir. Et on pense qu'on peut en sortir. Et on pense même qu'on peut sortir un million de personnes par an ces situations de précarité énergétique si on s'y met tous, de l'État aux artisans, aux ONG. Voilà, on est convaincu qu'on peut agir à grande échelle parce que la particularité de la précarité énergétique, c'est quand on isole une maison, qu'on change la chaudière, qu'on change les portes et les fenêtres, ben on peut en sortir. Et c'est pour 20 ans ou même beaucoup plus.
Oui, c'est vrai que c'est concret et on va le voir tout à l'heure, il y a des solutions qui existent. C'est choquant quand même cette situation dans un pays qui, comme je le disais en introduction, est tout de même la 6e puissance économique mondiale.
C'est même insupportable. Je crois que c'est vraiment, encore une fois, parce que ça peut se résoudre. Et en plus, parfois, on a des questions sociales et des questions environnementales qui s'opposent. On craint qu'avoir une activité favorable à l'environnement, au climat, etc., ça supprime des emplois, ça peut créer... Là, c'est le contraire. À chaque fois qu'on sort une famille d'une situation difficile, on gagne sur le plan environnemental-climat, on crée des emplois locaux et en plus, les gens sont en meilleure santé. Et même sur un plan très pragmatique, on se rend compte que c'est de l'argent économisé, y compris quand... dans la situation actuelle, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un peu la double peine, comme le soulevait d'ailleurs la Fondation Abbé Pierre dans son dernier rapport. Quand on demande aux gens de se confiner, alors que la qualité de l'air à l'extérieur de la maison s'améliore parce qu'il y a moins de circulation, eux, c'est le contraire, parce que quand vous êtes en difficulté, que vous avez froid, vous bouchez les aérations. Quand vous avez déjà de l'humidité, vous créez des problèmes de santé. C'est plus cette maison dont on rêve tous qui protège, qui est confortable, qui donne envie, qui crée la famille, qui met en confiance. C'est exactement le contraire. La maison apporte des difficultés de santé.
Alors, pour comprendre la réalité de la précarité énergétique, Maëlle Roudeau, vous vous êtes rendue sur le terrain. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez contacté l'association Réseau Eco-Habitat qui accompagne les personnes en situation justement de précarité énergétique dans la rénovation de leur logement. Et avec leurs bénévoles, vous êtes allée à la rencontre de plusieurs familles dans l'Oise, au nord de Paris.
Oui, Anne-Cécile, plus précisément à Cambronne-les-Ribécourt, où j'ai fait la connaissance de Maryse Gros-Didier, une dame âgée qui vit toute seule chez elle en fauteuil roulant. Elle m'a accueillie dans sa maison pour parler de sa situation.
Écoutez, ça fait 26 ans quand je suis ici. C'est une maison qui n'avait pas de... Il y avait trois pièces. On l'a refaite comme on a pu. On a refait une pièce, deux pièces même. Parce que quand j'étais en maison de réadaptation, je suis restée 8 mois. Là, mon fils, ils se sont organisés pour faire la salle de bain. Et puis une autre pièce que je puisse passer avec le fauteuil. Autrement, je serais... Cloué, je ne sais pas comment, tout le temps au lit avec des gens qu'il faudrait qu'ils soient là en permanence, forcément.
Pour vous chauffer, vous avez là, je vois, un insert, une cheminée,
oui.
Pour vous chauffer au bois. Du coup, comment ça se passe pour vous? Comment vous faites?
Ah ben, c'est mes enfants qui viennent m'aider en rentrant du bois.
Ici, vous vous chauffez avec cette cheminée. Est-ce que ça vous suffit pour avoir chaud l'hiver? Et est-ce que cette maison, pour vous, elle est vivable, elle est bien isolée?
Ah non. Vous savez, au bout d'un certain temps, l'isolement part, laine de verre qui part au fur et à mesure. Donc il n'y a plus d'isolation. Et l'hiver dernier, je me disais, c'est pas possible, je sens l'air. On avait l'impression que pendant tous les hivers, je suis malade.
Donc c'est une difficulté en hiver, mais aussi en été, c'est ça?
L'été, ici, dans cette pièce-là, on ne peut pas rester parce qu'il fait trop froid. Il vous faut un petit quelque chose sur le dos, parce qu'elle est située au nord. Hein.
Et en moyenne, là, dans votre maison, est-ce que vous savez un peu la température qu'il fait?
Le matin, ces derniers temps, quand il a fait très froid, là, j'avais 7, 8. Alors, c'est pour ça que je me dépêchais de déjeuner et je me recouchais.
C'est quoi le plus difficile à supporter?
C'est le froid, hein. Le froid, l'humidité, mais surtout le froid. Alors voilà, c'est comme ça.
Est-ce que vous aviez déjà, avant de rencontrer l'association, vous aviez déjà eu envie de faire des travaux chez vous?
Oui, exactement.
Et c'était possible de le faire ou pas?
C'était pas trop possible, non. Parce que vous savez, avant que mon mari décède, j'avais 680 euros par mois. Alors après, forcément, j'ai touché le... Un petit peu plus, forcément, mais c'est pas encore mirobolant. Mais moi, je me plains pas, parce qu'il y a pire que moi.
Jacqueline, vous êtes en train de boire votre café et vous êtes bénévole du réseau Eco-Habitat. Vous aidez du coup Madame Gros-Didier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites en tant que bénévole?
Alors en tant que bénévole, je vais voir Madame souvent, je l'appelle souvent. Là, Madame n'avait pas de dossier, avait un dossier mais qui était resté sans réponse sur le handicap pour pouvoir bénéficier d'une prime. Donc j'ai fait tout le nécessaire pour que Madame puisse bénéficier d'une prime. Bon, les enfants s'en sont déjà occupés une première fois, hein, mais il n'y a eu aucun retour. Donc là, je pense qu'avec l'étiquette Réseau Eco-Habitat ou Secours Catholique, ça peut-être aller un peu plus vite. De ce que je fais également, je vais la voir, je mange des gâteaux avec elle d'ailleurs.
Qu'elle amène.
Non, donc une réelle amitié s'est créée entre nous. Donc je parle des travaux, j'essaie donc de faire patienter tant que je peux. Pour l'arrivée des travaux.
Ça fait combien de temps que vous demandez à faire ces travaux du coup?
Alors attendez voir, moi j'ai connu Madame Gros-Didier, ça devait être en septembre à peu près. J'avais donc appelé Madame et j'avais donc fait donc cette feuille qui résumait un petit peu la situation de Madame. Hein. Donc vous voyez, Madame vit toute seule, son fils et ses deux filles viennent la voir selon leur disponibilité en essayant de charger l'insert les matins d'hiver, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est bien entendu, ils ont également leur vie, mais ils sont là souvent quand même. Hein. Alors, travaux prévus, l'isolation haute de la maison, l'électricité, les menuiseries, la ventilation, une pompe à chaleur RO avec réseau de chauffage radiateur eau.
Ça, c'est peut-être le plus important au final.
C'est le plus important. Oui, ça et puis l'isolation, bien sûr. Donc, tout ça correspond bien à ça. Donc, l'entreprise doit venir fin février, vous voyez. Puis là, il y a eu des travaux. Donc, ils doivent venir maintenant incessamment.
Et vous vous rappelez de la première personne que vous avez aidée?
Oui. Oh oui, ben justement, j'en parlais avec Maryse. À l'époque, je ne voulais pas m'occuper des personnes parce que je trouvais que c'était trop incisif dans leur vie. Je ne voulais pas le faire. Donc, je m'occupais que du secrétariat. Ayant été secrétaire moi-même, donc j'étais à mon aise. Et puis un beau jour, il y a eu un manque de bénévoles au Secours catholique pour une personne de Coudun. Et cette personne, ça a été ma révélation. C'était un monsieur qui avait eu une vie vraiment d'enfer, quoi, pauvre homme. Et là, je me suis investie à fond et j'ai trouvé ça merveilleux. Et ensuite, eh ben, après, j'ai eu d'autres personnes. Et je dois dire que toutes les personnes que je vois, ce sont des gens qui sont en souffrance quand même.
Ça vous choque qu'en France, il y ait des personnes qui puissent habiter comme ça ?
Énormément, énormément. Je trouve qu'on ne devrait pas avoir froid en France l'hiver. Des fois, je suis dans mon lit et je me dis, mon Dieu, il y a des gens qui ont froid, ça c'est quelque chose. Et par contre, où je suis contente, c'est que le réseau éco-habitat, lorsque les travaux sont faits dans une maison, ben, au moins, même pour l'été, ça sera parfait. Parce que maintenant, on pense au froid, mais si on voit vraiment bien tout venir, ça va être bientôt trop chaud. Et là, justement, le fait de faire ce qu'il faut dans les maisons, ça permettra de vivre une vie plus tranquille.
Rénover des bâtiments, comme vous allez le faire ici, on va faire des rénovations dans la maison de Madame Gros-Didier. Ça permet de donner des conditions de vie plus décentes aux personnes qui vivent dedans.
Tout à fait.
Et c'est aussi un moyen de faire des économies d'énergie.
Tout à fait.
Est-ce que vous aviez conscience de cet enjeu écologique de l'action ?
Tout à fait. D'ailleurs, je suis tellement fière parce que Franck Billot n'utilise que des matériaux biosourcés. Voilà, il y a plein de choses qui sont faites dans ce sens et je trouve que c'est très beau. C'est pas parce qu'on est, je dis pas pauvre parce que c'est pas le cas, mais c'est pas parce qu'on connaît pas ou on ne sait pas qu'on doit avoir des matériaux qui ne sont pas bons. Et là, franchement, je trouve l'action de Franck Billot extraordinaire.
Parce qu'en plus, une fois qu'elle sera isolée, ça va éviter de surchauffer la maison, peut-être.
Surchauffer la maison et ça sera beaucoup plus sain. Vous voyez, avant, c'était la laine de verre. C'était pas très sain.
Madame Gros-Didier, vous, votre objectif premier en faisant ces travaux, c'est pouvoir vous déplacer, vous chauffer dans cette maison un petit peu mieux, enfin vivre mieux dans cette maison. Est-ce que vous étiez aussi au courant que ça allait avoir un impact positif sur la planète? Parce que quelque part, vous, en faisant ces travaux, vous êtes un peu écolo.
Oui, ben oui, parce que je regarde souvent les émissions sur ce sujet. Et c'est vrai que des fois, il faudrait pas grand-chose pour que si tout le monde faisait quelque chose, ça pourrait être plus facile. Si moi je le fais, toi tu le fais, on le fait tous, ça sera beaucoup mieux pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et tout. Parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas immortel.
Gilles Béraud, je rappelle que vous êtes le fondateur du collectif Stop à l'exclusion énergétique. Comment réagissez-vous à ce reportage ?
Je crois que cette situation est terrible. D'abord parce que cette personne est en difficulté et qu'effectivement, on voit très bien que peut se croiser handicap et situation de précarité. Évidemment, très peu de gens sont purement des précaires énergétiques. Quand on est un précaire énergétique, on a aussi des vraies difficultés de vie. Et cette femme qui est seule, elle a une chaudière à bois, elle est mal isolée, mais même la chaudière à bois, elle a besoin de ses enfants pour passer tous les jours allumer cette chaudière. Il s'avère que j'ai eu l'occasion de la rencontrer. La veille, son fils avait eu un problème et n'a pas pu venir. Bah, elle est restée couchée. Non, je crois qu'on a une vraie question de solidarité. Et surtout, maintenant, il faut avancer. Je crois que chez elle, effectivement, c'est les fenêtres qui avaient des gros soucis, l'isolation qui était trop vieille. Et on voit bien le côté insupportable de la situation, c'est qu'en plus, on comprend très très vite, quand on les écoute, quand on voit l'accompagnement que fait le réseau Ecohabitat, qu'il y a des solutions. Et c'est là que ça devient insupportable. C'est quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, on trouve des solutions, de la solidarité, mais là, en plus, on peut y arriver. Et donc, quand on voit qu'on peut y arriver, se pose la question, comment y arriver plus vite? C'est aussi pour ça qu'on a lancé cet appel au reste à charge. C'est, on finit toujours par trouver l'argent. Mais au lieu de mettre 3 ans, il faut mieux mettre 6 mois, 1 an. Donc, on a besoin de faire une ingénierie financière. On a besoin de trouver tous les financements d'État, les financements des collectivités, les fondations, évidemment, Secours catholique, Fondation Abbé Pierre, Secours populaire sont très, très actives et heureusement sont là. Mais malheureusement, elles interviennent encore trop souvent pour payer des factures d'électricité ou de pétrole. En gros, de compenser ce que les gens n'arrivent pas à payer parce que comme c'est mal isolé, ils dépensent. C'est trop cher, l'énergie. Mais ce serait quand même mieux qu'elles puissent faire des chèques pour aider à faire des travaux parce qu'ensuite, bah, c'est fini. On n'a plus besoin de faire ces chèques tous les ans. Et c'est y compris la prime d'État, ce qu'on appelle la prime énergie, le chèque énergie. Il est extrêmement utile parce que ça permet de se chauffer, de finir l'hiver. Mais si on pouvait ne plus en avoir besoin, ce serait quand même beaucoup plus intelligent, quoi.
Alors Maëlle, en vous rendant sur place, vous êtes rendu compte à quel point l'exclusion énergétique peut être difficile à vivre au quotidien ?
Oui, exactement. En fait, lors de ce reportage, j'ai rencontré plusieurs personnes, dont une qui m'a expliqué qu'elle avait éteint le chauffage de son logement depuis plusieurs semaines, alors que nous sommes encore en plein hiver. Cela lui permet de faire des économies sur sa facture d'énergie et donc de pouvoir s'acheter à manger à la fin du mois. Cette personne n'a pas tenu à témoigner dans notre émission car elle n'ose pas encore parler de sa situation ou même demander de l'aide à des associations.
Du coup, Gilles Béraud, les personnes en situation de précarité énergétique, on le comprend bien, ont honte hein, souvent de leur situation. Leur nombre est donc certainement sous-estimé.
Très probablement. C'est vrai qu'une de nos grandes difficultés, c'est d'arriver à les identifier. Donc, des associations dont celles qu'on a citées sont très actives, mais il y a aussi dans chaque mairie un comité communal d'action sociale, les CCAS, qui n'ont pas forcément l'habitude de considérer ce qu'est la précarité énergétique. Elles traitent de précarité d'une façon globale. Donc, on a aussi des enjeux de formation, évidemment, avec l'ensemble des interlocuteurs. Et c'est cette première étape, c'est identifier les gens. Parce qu'effectivement, on se cache. On a eu une histoire d'un enfant, il n'y a pas longtemps, qui, après les travaux, a dit à son père un jour en rentrant de l'école, Mais papa, depuis les travaux, on a plus froid, on est plus pauvre, je vais pouvoir inviter mes amis. Et on a eu des réflexions assez similaires de gens beaucoup plus âgés. Il y a un moment, on n'invite plus les voisins parce que la salle de bain est en tellement mauvais état que on a honte, quoi. Vous savez, il y a quand même des cas aussi où la DAS interdit aux grands-parents de recevoir leurs petits-enfants parce que la maison n'est pas en état. C'est une réalité. Et c'est ce dont on a voulu rendre compte dans ce film avec Emmanuel Béart, mais sans aucun pathos. Quoi. La question, c'est pas de s'apitoyer maintenant. Maintenant, c'est d'agir. Quoi. Enfin, voilà. On pourrait dire c'est un scandale, c'est une honte. On est tous touchés. Enfin, je crois que Maëlle vous en rappellerait de ses visites. Et d'autant que en plein hiver, en plus, c'est très très compliqué. Hein. Même pour les travailleurs sociaux, d'ailleurs. Quand ils viennent travailler chez des précaires énergétiques, c'est compliqué pour eux. Ils ont froid, c'est humide, ça met en jeu leur santé, d'autant en période de Covid. Non, je crois que là, maintenant, c'est l'accélération de l'action. On est dans cette réalité-là. Mais effectivement, pour reprendre le début de votre question, la question, c'est celle des temporalités. Quoi. Dès qu'on a conscience de ça et qu'on voit qu'il y a une solution, ça devient insupportable de se dire... Il faut quelques mois pour la prime Anna, etc. Il faut appeler le conseil régional, le conseil départemental, l'intercommunalité. On a envie d'accélérer et d'aller beaucoup plus vite. C'est ce que fait le réseau Ecohabitat et plein d'autres. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de vraie solidarité, parce que quand on croise aussi les précaires énergétiques, ce sont souvent aussi des précaires numériques. Donc, il n'y a pas forcément un ordinateur. Il n'y a pas forcément... Et même, nous, on milite aussi pour dire on va faire des travaux, puis est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution pour mettre une borne Wi-Fi qui ne coûte pas grand-chose? Est-ce qu'on peut aussi croiser avec quelques ordinateurs c'est vraiment d'une logique aussi globale qui importe. C'est compliqué, ces histoires de travaux.
Cela dit, donc, comme vous le disiez, il existe des solutions pour venir en aide à ces familles. Et c'est ce que vous avez pu constater, Maëlle, en allant visiter un chantier lancé grâce à Ecohabitat.
Oui, alors après avoir rencontré Maryse, je me suis rendue sur un des chantiers en cours de l'association à Clairoy, dans la maison d'Alexandre. C'est Pierre Cheviotte, bénévole et président de l'association, qui m'a accueilli au milieu des travaux.
Chez Alexandre, là, si vous voulez, c'est une maison de centre-ville. quand vous passez devant, vous pouvez pas vous imaginer que bah, qu'Alexandre avait des difficultés parce que il fallait aménager. Il y a aussi des problèmes d'argent. Il a perdu son papa il y a combien de temps, Alexandre?
7 ans.
Il a perdu sa maman cet hiver et puis voilà, il s'est retrouvé un peu seul, un peu perdu aussi. On a su que bah, la vie était pas facile pour lui. Donc on a fait un plan d'éventuel financement pour refaire sa maison et il s'avère qu'il a des droits. Donc ça y est, on y est. Ça fait 2 ans qu'on est sur le projet. Et ça y est, je pense qu'Alexandre, au mois d'avril, habitera chez lui. Donc tout a été refait, les huisseries, plomberie, on reprend l'électricité, ouais. Et puis on réménage sa salle de bain, enfin on lui réménage complètement sa maison. C'est une maison qui est en moellon de pierre et donc qui n'était pas isolée parce qu'elle date de...
Avant 1935.
Ouais. Elle avait absolument besoin d'être rénovée, surtout d'être isolée. Bon, chez Alexandre, il n'a jamais fait froid. Mais parce que le toit est bon, parce qu'il n'a jamais fait froid. Mais il avait des économies d'énergie à faire, donc on l'a réisolé par l'intérieur. Alexandre, il a environ 1200 euros de revenus par mois avec sa ferme. Et il lui reste pour vivre en mensuel, une fois les charges tirées, 243 euros pour vivre. Vous imaginez ce que c'est? Et donc, il vit avec 8,10 euros par jour.
Oui, donc pour payer une facture d'électricité comme il y avait avant, c'était pas possible.
Les factures, vous voyez toutes les charges qu'il a, voilà. D'où les travaux aujourd'hui. Pour qu'il puisse vivre dignement, Réseau Ecohabitat s'occupe de trouver des subventions. Les premières subventions, c'est bien sûr, c'est l'ANA. Après, il y a des subventions régionales, des subventions départementales. Et puis alors, les associations, les fondations, Fondation Abbé Pierre, Secours Catholique, à qui on demande des aides aussi.
Il y a des associations comme vous qui l'aidez aussi sur le reste à charge, c'est ça?
On fait le maximum, bien sûr, bien sûr. Nous, on se charge déjà de monter un dossier. Et après, il faut qu'il y ait un reste à charge décent. Bon, Alexandre, c'est vrai qu'il a, il a un petit peu plus de reste à charge. Bon, il a un peu plus de revenus aussi que beaucoup. Donc, ça lui permettra de pouvoir vivre dignement dans les années à venir.
L'idée, quand on rénove comme ça, du coup, c'est de mieux isoler la maison, aussi que la personne, elle vive mieux. C'est un geste aussi qui est... un peu environnemental quand même, parce que ça permet de faire des économies d'énergie.
Mais pour le bilan carbone, c'est super bon. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis ça permet à la personne d'avoir une vie digne. Chez Alexandre, c'était une passoire énergétique. Les fenêtres, vous pouviez passer votre main, vous sentiez de l'air. Sa porte d'entrée, elle n'était pas étanche. Et puis il chauffait en plus. Alors imaginez-vous l'électricité qui partait.
Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle un peu la précarité énergétique.
Ça s'appelle la précarité énergétique.
Ouais. Ça peut toucher des personnes dans des maisons, ça peut toucher des personnes dans des appartements. Qui est-ce que ça touche,
bien
en
sûr.
Fait
ben, ça touche des gens, c'est un mot que j'aime pas trop non plus, mais des gens qui sont un petit peu défavorisés. Bon, à la campagne, il y a beaucoup de milieux agricoles. Les retraites agricoles sont toutes petites, hein, toutes petites, toutes petites. Et les gens, ben, ils n'ont pas entretenu parce qu'il fallait élever la famille, il fallait élever les enfants. Et puis, il y a un moment, ben, on ne peut plus. Nous, si vous voulez, notre raison aussi d'exister, c'est qu'on pense que les gens en précarité, que les pauvres, ont droit à des matériaux aussi nobles que les riches. Donc, on a décidé de travailler en éco-matériaux. Donc, ce sont des matériaux recyclables, etc., etc.
Donc, qu'est-ce qu'on a là?
La laine de bois. Bon, moi, je ne serai plus là pour vous accompagner, mais si vous revenez interviewer, peut-être qu'Alexandre ne sera plus là non plus. Mais dans 50 ans, elle sera exactement comme elle est là, tandis que la laine de verre sera complètement tassée. Et il aura déjà fallu la changer une fois ou deux, quoi.
Qu'est-ce qu'il faut retenir au final de tout ça?
Moi, je pense que ce qui est hyper motivant et hyper important pour nous, c'est qu'on améliore le confort et on améliore la vie d'une personne ou d'une famille. Pour moi, c'est très, très important. Puis on a des gens motivés. Et motivés dans la communication, motivés dans la technique, motivés dans l'accompagnement. Parce que, après, c'est facile. On pourrait refaire la maison d'Alexandre. Salut Alexandre, je te vois... Oh ben tiens, on se voit au 14 juillet, on boit un consomme, c'est tout. Non, nous, ce qu'on veut, c'est que quand il a besoin d'un conseil, quand il a besoin de quelque chose, non, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'accompagner les gens.
Gilles Béraud, il existe donc des solutions pour venir en aide aux personnes souffrant de la précarité énergétique. Nous allons y revenir. Mais ce qui est frappant à l'écoute de ce reportage, vous l'avez déjà évoqué, c'est aussi ce qui a surpris Maëlle, hein, c'est cette réalité qui se cache derrière des maisons devant lesquelles on passe sans les identifier.
Oui, on appelle ça les invisibles. Et effectivement, cet Alexandre, il est agriculteur. Il habite dans le cœur de cette petite ville ou village, je ne sais pas comment dire, et dans une maison en très très mauvais état, mais il a aussi son tracteur, il travaille, mais il n'a pas de quoi faire ses travaux, et Et probablement, il n'a pas non plus l'autonomie à monter réellement un dossier de financement, à savoir ce qu'il faut faire. Et c'est là que les bénévoles, c'est pour ça qu'on est vraiment sur des chaînes. Hein. Il faut identifier la personne, il faut la convaincre, il faut rentrer chez les gens. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure là, sur ces questions de honte. Donc, il y a un climat de confiance à créer. Ensuite, il faut un expert qui est capable de dire, bon, il y a tel travaux à faire, parce qu'on ne sait pas forcément au départ qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut analyser, il faut mesurer. Ensuite, il faut savoir combien ça coûte. Il faut trouver les artisans et il faut trouver le financement et aller plus vite possible. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'une vraie expertise. Et surtout, il faut toujours considérer que ce n'est pas parce que les gens sont en difficulté qu'il faut faire des petits travaux. Au contraire, il faut faire en une fois une rénovation globale et performante. Donc, c'est vraiment une mission d'accompagnement et c'est vraiment des alliances locales qu'il faut qu'on crée. Je crois que beaucoup est fait pour la précarité énergétique. Il faut de l'argent, il faut des grandes réformes d'État, mais il faut aussi des alliances au plus près des gens qui permettent d'accompagner et y compris de convaincre les artisans aujourd'hui de travailler chez les précaires. Ce n'est pas plus compliqué que d'autres. Et d'ailleurs, nos organisations sont là pour garantir les paiements aussi. Je crois que c'est un appel qu'il faut faire aussi à l'ensemble des artisans. Mais tout ça doit s'accompagner dans une bonne collaboration, relation de confiance.
Merci Maëlle Roudot pour ces reportages. Gilles Béraud, vous restez avec nous. Nous parlons des solutions pour venir en aide à ces familles touchées par la précarité énergétique juste après un morceau judicieusement choisi par François Porcheron, Price of Gasoline du groupe Bloc Party. C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons de précarité aujourd'hui, de précarité énergétique, car c'est l'un des objectifs du plan de relance français, rénover 500 000 logements par an pour faire disparaître d'ici 2025 ce que l'on appelle les passoires thermiques, c'est-à-dire des habitations mal isolées qui consomment trop d'énergie. Une ambition qui répond aussi à un enjeu social, car une famille française sur 10 au moins n'arrive plus à payer ses factures pour se chauffer, s'alimenter et s'éclairer. C'est ce que l'on appelle la précarité énergétique. En cause, la hausse du prix de l'énergie, de mauvaises conditions de logement et des revenus modestes. Depuis 2014, le réseau Ecohabitat accompagne des familles en difficulté, comme celle que Clémentine Métainier est allée rencontrer dans le nord de la France, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Compiègne. Bonjour Clarisse. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous.
De rien.
Donc vous êtes dans cette maison depuis combien de temps ?
10 ou 11 ans.
Avant d'avoir des enfants, alors ?
Oui, avant mon aîné.
D'accord. Et donc, vos enfants, ils ont quel âge aujourd'hui ?
Alors, 9, 4 et 2 ans.
Quand vous êtes arrivé ici, comment vous nous décririez effectivement cette maison? Quand on dit c'est une passoire énergétique, est-ce que vous en aviez conscience déjà?
Oui, plutôt, parce qu'on avait à peu près 300 euros d'électricité par mois, plus aux alentours de 60 euros de fioul par semaine l'hiver. Parce que les radiateurs ne suffisaient pas à chauffer la maison. Et que même comme ça, on atteignait des températures de 20 degrés quand tout tournait à fond. Le matin, si la fioul était vide et qu'il s'était éteint, on avait 14-15.
Et ici, il fait plutôt froid l'hiver. Enfin, il y a plusieurs mois quand même où il faut chauffer beaucoup.
Ben, comme vous avez vu, on est en sortie de village, en race campagne. Il n'y a rien pour arrêter le froid, quoi. C'est la maison où j'ai grandi. Au décès de mon père, elle a été mise en location, puisque j'étais encore enfant. Et ensuite, quand il a fallu me loger, on est venu ici. Pour justement ne pas avoir de loyer à payer, quoi. Et sincèrement, vu comment elle était quand je suis arrivée il y a 10 ans, s'il avait fallu acheter, j'aurais pas acheté cette maison.
Est-ce qu'on peut faire une petite visite?
Oui, bien sûr. En premier, je sais pas si Franck vous a dit, quand ils sont arrivés, nous on le savait pas, mais la toiture était entièrement fissurée de partout. On savait pas que le plafond prenait l'eau.
Et quand vous dites on savait pas, on nous l'a pas dit, c'est qui en fait qui ne vous l'a pas dit?
Alors, on a fait une demande d'aide la toute première fois pour payer une facture parce que, avec un budget restreint, puisqu'on était au RSA, on ne pouvait pas payer les 300 euros par mois, chaque mois. Et l'assistante sociale que j'avais vue a été outrée et m'a dit « c'est pas possible de payer une telle somme ». Et c'était dans les débuts des aides gouvernementales. Et elle m'a dit « il y a peut-être quelque chose à faire ». Donc on a contacté l'organisme de base, Cité-Métrie, qui est venu et qui nous a expliqué vaguement comment ça fonctionnait, qu'on avait le droit à, il me semble, 30% de la valeur des travaux qui était remis après les travaux. Le problème, c'est qu'on n'avait pas ni les fonds pour avancer, ni la banque qui voulait avancer. Ensuite, on ne savait pas dans quel sens fallait aller. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire en premier, les fenêtres, parce que nous, l'évidence, c'était les fenêtres en premier. Il m'a dit, vous faites ce que vous voulez du budget. Donc on avait fait faire des devis sans avoir conscience de ce que ça valait les travaux, en sachant qu'il y a certains entrepreneurs, quand ils venaient ici et qui ont vu l'état de la maison, ils m'ont dit « je vous envoie un devis sous 10 jours » que je n'ai jamais reçu, parce qu'ils savaient très bien que quelqu'un dans notre situation ne ferait pas faire les travaux. Donc ils ne se fatiguaient pas. Et en cherchant sur Internet, elle a trouvé justement Réseau Ecohabitat, qu'on a contacté par téléphone, qui ont fait une première visite et qui nous ont expliqué là tout ce qui n'allait pas. Et qui nous ont promis de nous aider. Avec justement, Christian Guillier était présent, c'est eux qui ont vu la toiture fissurée, la cheminée existante qui n'avait pas de boisseau et donc qui risquait de mettre le feu à la maison à tout moment. Des choses qu'on ne savait pas. Et qui ont vu l'état des fenêtres qui étaient des menuiseries en bois et le bois était vermoulu, pris par l'humidité, avait gonflé, l'eau rentrée, le froid rentré.
Alors justement, vous parliez de Christian. Christian est là. Bonjour.
Bonjour. Alors moi je suis Christian Guillet, je suis le responsable de l'équipe de Pont-Sainte-Maxence et donc je suis chargé aussi, je suis référent concernant le centre de l'Oise, concernant la précarité énergétique et donc j'ai des dossiers à suivre, plutôt en accompagnement. Il y a des personnes qui sont quand même en grande difficulté et donc on les aide au maximum en leur faisant des bons alimentaires. Si on a de la nourriture, on leur apporte la nourriture, de manière à les aider tellement ils ont des factures élevées au point de vue énergie.
Parce qu'en plus, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur une période difficile, étant donné que c'était aussi la période automne-hiver, il me semble.
Oui, c'est ça.
Donc, ouais. C'est les périodes où on était à se demander chaque jour comment choisir entre ce qu'on allait manger et s'il faisait froid. Il m'est arrivé le matin de dire à mon fils « mets ton manteau dans la maison ». Parce qu'il avait froid pour déjeuner avant d'aller à l'école.
Vous pouvez nous montrer dans la maison, par exemple, voilà, l'endroit, la pièce, Christian, vous qui vous a effaré, et puis vous, Clarisse, dans laquelle c'était impossible de vivre.
La pièce, c'est simple, c'était la chambre. La chambre où il y avait de l'humidité partout. Et là, c'était vraiment affreux et je me suis posé quand même beaucoup de questions. Et ça, je pensais, quand je rentrais chez moi, comment ils peuvent faire pour pouvoir dormir dans cette pièce qui était vraiment infecte par le fait.
Les plus grosses fenêtres qui posaient problème, c'est celle-ci. D'ailleurs, vous pouvez voir, l'humidité qui entrait par la fenêtre en bois a fait décoller tout le carrelage et a fait gonfler le plan de travail de la cuisine et pourrir les meubles derrière. Pour l'instant, là, je pense que net a été changé. On refera ce qu'il y a à faire quand on aura un peu plus de moyens.
Et donc, les travaux ont eu lieu quand? Ils ont duré combien de temps?
En janvier de l'année dernière. Pas tout à fait un mois.
Ça a été très vite. Et l'amélioration, elle est quand même là.
Alors justement, elle se situe où l'amélioration? Mais vraiment sur les choses du quotidien.
On aura une température normale, constante, que l'été, comme là, dès qu'il fait un peu chaud, on est bien dans la maison. Avant l'été, par exemple, à 15h, il faisait plus chaud dedans que dehors. Donc on ouvrait toutes les fenêtres, histoire d'avoir un minimum d'air, puisqu'il faisait la même température dedans que dehors.
À combien s'élèvent vos factures aujourd'hui? Vous avez vraiment vu la différence, enfin, globalement hein.
Aujourd'hui, ma facture d'électricité, elle est passée de 300 euros auparavant à moins de 150 euros aujourd'hui. Il me semble 120. Et auparavant, j'utilisais 3 bidons de pétrole, 3 à 4 par semaine. À 25 euros en moyenne. Aujourd'hui, c'est un sac de granules à 2,30 euros par jour, donc moins de 5 euros par semaine.
Donc vous aussi, forcément, vous allez mieux?
Oui, bien sûr, c'est sûr, le moral y est. C'est surtout que quand on rencontre pour la première fois les gens de réseau Ecohabitat ou vous, Christian, et qu'ils viennent nous dire « Oui, vous en faites pas, tout va bien se passer, c'est atroce, on va vous aider, c'est sûr, on arrivera à quelque chose ». Aucun particulier peut arriver à faire ce que Réseau Ecohabitat fait pour nous. Parce qu'il y a un tel cumul de primes différentes, et en plus, on ne nous dit pas lesquelles sont cumulables. Certaines le sont, d'autres ne le sont pas.
Et vous, dans votre vie personnelle, de femme, de mère, qu'est-ce qui a changé?
Moi, le souci de se demander toujours de courir après les radiateurs, le chauffage, de quelle heure il est, attention, il faut mettre en route. Parce qu'une fois, j'avais oublié de mettre en route dans la chambre de mes garçons et il avait fait 14 degrés, il me semble, au moment de les coucher. Alors, je les ai fait patienter une heure dans la salle parce que c'était pas tolérable de les coucher dans une chambre à 14 degrés.
Merci beaucoup, Clarisse.
De rien.
À bientôt.
Au revoir.
On dit que je suis né le jour le plus froid du monde. On dit que je suis né avec le cœur gelé. On dirait même qu'on m'a porté à bout de ventre en haut de la colline qui surplombe la ville et ses clochers.
Alors nous voilà repartis sur la route en votre compagnie, Franck Bio. Et là, on vient de passer de l'Oise à la Somme, c'est bien ça?
Exactement. On est dans la Somme, on est à 30 km de Candas, un petit village au nord de la Somme.
Vous l'avez évoqué, hein, ce nouveau dispositif que vous lancez au sein de Réseau Ecohabitat. Donc comment on l'appelle, ce dispositif? Et puis comment il se développe et il concerne qui?
Alors, en fait, le Secours catholique a appelé cette action d'accompagnement de personnes en précarité énergétique, il l'a appelé en fait « indigne-toi », parce qu'on peut s'indigner pour avoir une bonne toiture, et on peut aussi parler d'un « digne-toi », c'est-à-dire autour de la dignité des personnes. Donc « indigne-toi » a démarré en fait en 2014 avec ce constat, c'est que 25% des aides financières consacrées par le Secours catholique pour aider des personnes en difficulté servent à payer des factures d'énergie. Chaque fois qu'un donateur donne 100 euros, je me disais, mais bon sang de bonsoir, on redonne systématiquement 25 euros à EDF, par exemple, pour payer une facture. Donc, plutôt que donner l'argent à EDF, puisqu'il y a des dispositifs d'amélioration de l'habitat, comment on pourrait permettre à ces personnes de faire des travaux, et quitte à ce que le Secours catholique puisse peut-être compléter quand il le faut, le programme de travaux pour soulager le reste à charge. Donc là, nous, on accompagne modestement 75 familles sur la région Hauts-de-France. Ça veut dire quand même qu'il y a un gros travail de sensibilisation, d'information des bénévoles sur le fait que de l'argent, il y en a, et qu'il vaudrait mieux en fait travailler sur les causes de la pauvreté. Et la cause, c'est les contraintes financières que les gens ont à payer leurs factures d'énergie, en l'occurrence.
Et des factures d'énergie, alors très concrètement, qui vont s'élever, par exemple, donc on l'entendait ce matin, Clarisse nous a donné un ordre d'idée, mais sont très chères et sont liées à quoi? Par exemple, parce que l'isolation thermique est très mauvaise ou parce que, effectivement, le chauffage, en fait, ils n'ont pas passé au chauffage au bois parce que pour des raisons financières, c'est vraiment ça ou c'est aussi de la méconnaissance?
Il y a trois facteurs. D'abord, en fait, on peut dire que le prix de l'énergie depuis 20 ou 30 ans n'a jamais cessé d'augmenter. Deuxième facteur, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres se creuse. Donc, on a aussi beaucoup de gens qui sont en difficulté financière. Et puis trois, on a construit des logements dans les années 70-80. Ces logements qui coûtaient peu cher en énergie il y a 30 ans, aujourd'hui coûtent excessivement cher parce que les gens n'ont pas eu forcément les possibilités de faire des travaux d'amélioration de l'habitat. Donc un habitat dégradé avec des gens pauvres dedans et un prix de l'énergie en fait qui ne cesse d'augmenter, eh bien en fait on a tous les ingrédients pour que ça plombe le ménage de ces mêmes familles en difficulté. Il s'agit d'un couple avec deux grands-enfants. Je suis pas sûr qu'on puisse les rencontrer. On va se mettre là. Monsieur Yann Prouveau.
Bonjour.
Bah, merci de nous recevoir.
Ça a été dans la précipitation.
C'est vrai, ouais, vous avez un rendez-vous ce matin.
Ouais,
du coup, c'était un peu la course pour vous. Alors. Ça doit démarrer bientôt. Je ne sais plus si on vous a donné la date
alors,
ou pas.
Alors, justement, j'ai été recontactée ce matin. Ça va mettre en route le 27. En fait, ils ont déposé le plus gros des matériaux le 27 et ça commencerait réellement les gros travaux le 5 octobre.
D'accord.
On n'y est pas, mais on n'en est pas loin.
Ouais, 27 octobre, ça
On a toujours eu des grosses factures. Il y a 26 ans qu'on habite ici et... Bon, en fait, j'ai perdu mon emploi aussi entre-temps, donc ça a été un peu plus dur suite à une opération. Donc, ben, vous voyez, on avait commencé, mais bon, manque de moyens, on a arrêté. Et puis, ben, tout est parti, je vous dis, d'une facture qu'on ne pouvait pas payer.
Alors là, quand on lève la tête au-dessus de vous, on voit le toit, mais
on voit l'ancien
plafond.
Voilà.
Et on voit qu'il y a un trou, en fait.
Voilà. Ça, c'est nous qui avons commencé. On ne pouvait plus. Moi, de 1002, 1003 de salaire, je suis descendu à 800 de chômage. Là, actuellement, j'en ai 300. Je ne me vois pas acheter des matériaux pour faire des travaux. Sinon, on ne mange plus, on ne paye plus de factures, on ne fait plus rien. Parce que, on faisait un petit peu de courses, mais ce qu'on avait à côté qu'on nous donnait, le lait, rien, c'est bête, mais le lait pour les enfants, qui coûte quand même sacrément cher, j'en achetais plus.
Donc, avec l'approche des travaux, qui est imminente, donc bientôt, début octobre, est-ce que ça vous fait plus peur ou est-ce que ça... vous êtes vraiment contente?
Quand j'ai vu arriver les... bonhomme pour la toiture. Eh ben, j'y croyais pas. Parce que la toiture, c'était une catastrophe.
Ah ouais, la toiture.
Il pleuvait dans la maison, il y avait des auréoles au plafond dans les chambres. Enfin, c'était la catastrophe.
Ouais,
il neigeait dans la maison. Et je peux vous dire que là, les dernières pluies, on a dormi sur nos deux oreilles. Chose qu'on ne faisait pas avant. Parce que toujours la hâte de dire, on va se lever, on va avoir de l'eau, on va avoir ci, on va avoir ça. Là, on dort. C'est bête, mais... toujours se demander si ça va pas tomber, si ça va pas... Plus d'une fois, on est monté avec Stio pour remettre des tuiles en plein hiver, des ardoises, parce qu'il pleuvait, parce que... les portes vont être changées. Ça va devenir deux portes en PVC, toutes les fenêtres de derrière, ça va être des fenêtres PVC pareil, ou de vitrage. En fait, j'ai aussi un projet de famille d'accueil par la suite. Donc j'ai une pièce au bout qui est actuellement ma buanderie, qui va se transformer en chambre pour accueillir une personne handicapée mentale.
D'accord. Donc ces travaux vont quand même changer beaucoup de choses, au-delà simplement de l'énergie ou des factures.
Au-delà des travaux, ça va aussi m'apporter une vie sociale beaucoup plus... Voilà, ça va nous changer la vie. On peut faire des projets qu'on n'aurait peut-être pas fait avant. D'ailleurs, j'ai décroché un emploi hier.
Félicitations.
Voilà.
D'accord. Et là, concrètement, sur quoi allez-vous faire des économies?
L'eau, parce qu'il y a beaucoup de fuites, des grosses factures d'eau aussi, à 900 euros d'eau, tous les 6 mois. Donc il y a un tuyau qui passe dans le mur, il y avait une fuite à ce niveau-là, les toilettes, il y a des fuites, il y a des fuites, partout il y a des fuites. Électricité, parce que pas de double vitraux, pas isolé partout, les portes, elles ne sont plus non plus toutes neuves. Et là-haut, pareil, on aura des... là d'ailleurs, on aura des radiateurs avec thermostat. Là, il y aura un poêle à granules, donc ben, plus d'achat.
Oui, j'allais vous demander comment vous allez vous chauffer.
Non, on passe au poêle à granules.
D'accord.
Voilà.
Et du coup, ça va s'élever à combien vos travaux ici?
Alors, mon Dieu, il y en a pour plus de 60 000 euros. Mais avec beaucoup d'aide.
Et vous payez un gros montant?
Pour l'instant, moi, sa charge était de 5 000 et quelques euros.
Et vous savez combien de temps vont durer les travaux?
Alors, moi, on m'a dit environ 6 semaines. D'appréhende toujours. Savoir comment ça va aller, savoir s'il ne va pas y avoir des surprises, parce que, on casse, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Nous, on en a eu la preuve dans la cuisine. Je vous dis, quand c'est arrivé pour la toiture, à la limite, je me demandais si c'était vrai. Je crois que je vais voir débarquer. Je vais voir un débarquement, je vais me demander si c'est encore chez moi.
Se préparer au changement, en fait, de votre maison. Aussi. Vous n'allez plus la reconnaître aussi.
C'est des souvenirs, déjà. Puis, voir l'évolution aussi. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est sincèrement ma douche.
J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long, et des portes aussi, faut le reconnaître, et des portes aussi, il faut bien sortir. J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long.
Gilles Béraud, je rappelle que vous êtes le fondateur du collectif Stop à l'exclusion énergétique qui vient de lancer une campagne avec Emmanuel Béart pour un appel aux dons pour venir en aide à ces familles, notamment pour les aider à boucler les 10% souvent qui restent à leur charge pour les travaux. Alors on ne va pas rentrer dans la problématique de ces montages financiers parce qu'en plus ça n'intéresse pas forcément nos auditeurs qui vivent pas forcément en France, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe plus de 1500 dispositifs, que la rénovation des bâtiments fait partie des objectifs du plan de relance français suite à la crise sanitaire. Il y a plusieurs articles aussi de la loi Climat et Résilience qui est débattue à l'Assemblée nationale depuis cette semaine, qui traite de ce sujet. Est-ce que vous diriez que quand même ça évolue, ça bouge dans le bon sens ?
Il n'y a absolument aucun doute sur le fait que ça évolue, ça s'accélère. Nous, on trouve que ça ne va pas assez vite. Non, il y a dans le plan de relance, il y a 2 milliards en plus pour justement l'habitat individuel. Il y a de l'argent aussi sur l'habitat social. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'habitat individuel, mais évidemment, il y a besoin de rénover aussi les HLM et l'ensemble de l'habitat social, comme il y a besoin aussi d'isoler les hôpitaux, les écoles, etc. Enfin, c'est un grand chantier de rénovation qui est nécessaire. Vous savez, les nouveaux bâtiments, les nouvelles constructions en France, c'est 2% du parc. Donc la priorité reste absolument la rénovation. Et en plus, quand on construit neuf aujourd'hui, on sait construire avec de bonnes qualités thermiques et aussi sur le plan de la santé. Donc on a besoin d'accélérer ça. C'est plutôt pas mal les progrès qui ont été faits, mais on est loin d'être à la hauteur. Il y a 5 millions de passoires thermiques à peu près en France, enfin un petit peu moins. Tous ne sont pas des précaires, bien évidemment. Vous pouvez habiter un très très grand château, pas isolé, avec des moyens conséquents et vivre dans deux pièces une bonne partie de l'hiver. Sur la question de la précarité, c'est d'abord une question de solidarité et qui rencontre une question climat. C'est un sujet qui concerne autant le social que l'énergie et donc il faut agir dans tous les domaines.
Merci beaucoup Gilles Béraud d'avoir participé à cette émission.
Merci.
Merci à Maëlle Roudot pour sa préparation, à François Porcheron pour sa réalisation. N'hésitez pas à nous écrire pour partager vos impressions. c'estpasduvent@rfi.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine. Même planète, même heure.
Le débat africain.